partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Paul Nathan au micro de Radio IDFM avec Francky à la technique. Bonjour Francky, bienvenue à vous tous qui nous écoutez sur Radio FM 98 ou 98.fr. Merci d'avoir choisi notre antenne et d'être fidèle au rendez-vous. Aujourd'hui, au sommaire de l'économie en direct, nous avons trois personnes totalement engagées au service de l'entrepreneuriat. Nous recevons Mano Grady de la Sodesi. Bonjour Mano.
Bonjour.
Nous recevons également Idir Hamidi, qui est dirigeant de plusieurs entreprises. Il reviendra sur ce point-là, mais les énoncer toutes, ça serait trop compliqué. Mais il est aussi secrétaire général de l'association CVE à Noisy-le-Grand. Il nous en parlera. Président de Réseau Entreprendre Sainte-Saint-Denis et vice-président de Réseau Entreprendre Île-de-France. Donc, il va avoir beaucoup de choses à nous raconter. Nous n'en doutons pas. En plus, on se connaît un tout petit peu. Je sais qu'il est bavard.
Bonjour, merci.
Donc, bonjour, Idir.
Bonjour, l'équipe.
Et puis, Jacques Deray, qui est dirigeant de JD Encom, je ne sais pas si on...
Oui, on peut dire Encom. Ouais.
Encom, ouais. Et de JLD Invest SAS, et donc qui est aussi administrateur de Réseau Entreprendre Sainte-Saint-Denis, et de plein d'autres choses aussi. On aura l'occasion d'en parler. Bonjour Jacques.
Bonjour à vous tous. Merci de l'invitation, Paul.
C'est un plaisir. C'est un véritable plaisir de vous avoir tous les trois. Nous allons démarrer avec Mano Madi, donc qui est responsable entrepreneuriat et SMAG à la Sodesi, donc qui est une filiale d'Air France, et président de Diez, qui est une association pour la promotion de l'SMAG dans les grands comptes. Donc vous allez nous présenter ces deux structures et leur complémentarité peut-être.
Oui, tout à fait. Alors, la Sodesi, c'est plus qu'un logo, en réalité c'est un acronyme. Et c'est un acronyme qui signifie la Société pour le développement de l'emploi dans les services et l'industrie. Et à ce titre, on a trois services au sein de la Sodesi. On fait du développement des territoires, on fait du développement économique et du développement personnel. La présidente de la Sodesi, Valérie Felouze, bien sûr, qui est salariée de chez Air France. Et alors, développement personnel, on fait des bilans de compétences pour les personnels d'Air France. Développement des territoires, on gère ce qu'on appelle les fonds de revitalisation du groupe Air France.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fonds de revitalisation ?
Alors, les fonds de revitalisation, c'est un sujet précieux, puisque c'est chaque fois que vous avez un plan de départ volontaire qui est mis en place dans une grande entreprise, l'entreprise doit abonder une sorte de pénalité pour recréer de l'emploi là où elle a supprimé de l'emploi. Et elle va recréer donc à hauteur de 1 SMIC à 3 SMIC par emploi supprimé. Donc ce sont des fonds qui sont très importants. Et donc l'idée, c'est de contribuer à développer un territoire en recréant de l'emploi sur ces territoires-là. C'est ce qu'on appelle la revitalisation.
D'accord. Donc quand vous parlez de départ volontaire, c'est... Ce sont des PSE, donc des plans de sauvegarde
Exactement,
de l'emploi, ou c'est plus large, ça non, peut s'appliquer à d'autres...
Effectivement, alors ça pourrait s'appliquer à ce qu'on appelle nous des RCC, des ruptures conventionnelles collectives par exemple, hein, je donne la définition à chaque fois, mais c'est ça, c'est dans le cadre des plans de sauvegarde à l'emploi, vous mettez en place des plans de départ volontaire. L'idée c'est d'accompagner des collaborateurs du groupe Air France qui ont décidé, dans le cadre d'une démarche volontaire, de quitter l'entreprise. Et quand ils décident de quitter l'entreprise, certains vont retrouver du travail en tant que salarié, d'autres vont partir dans le cadre d'une retraite anticipée. Et puis vous avez une troisième voie qui est celle qui est donnée à des salariés de quitter l'entreprise en créant leur entreprise. Donc, et là, effectivement, c'est dans ce cadre-là que la Sodesi intervient, hein, puisque la Sodesi va accompagner des salariés qui décident de partir dans le cadre d'un projet entrepreneurial.
D'accord. Alors juste peut-être un mot y dire sur la partie revitalisation, Réseau Entreprendre est concerné aussi par le sujet de la revitalisation et des fonds qui sont alloués dans ce cadre ?
En effet, Réseau Entreprendre crée des employeurs pour créer des emplois et la Sodésie qui compense par ce fonds de revitalisation permet, en appuyant le Réseau Entreprendre, de participer à cette création d'emplois. Donc quelque part, l'équilibre est retrouvé grâce à ce partenariat.
C'est vrai que c'est intéressant parce que dans cette belle maison qu'est Réseau Entreprendre, vous avez un adage qui est de dire que pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Et c'est la raison pour laquelle, historiquement et structurellement, la Sodésie a financé des programmes portés par les réseaux entreprendre. On a financé déjà des programmes qui sont portés par Réseau 93 ou Réseau 95 aussi, où on accompagne des pépinières, des accélérateurs, des incubateurs sur des programmes dont la finalité est de recréer de l'emploi sur un territoire.
D'accord. Et là, dans le cadre d'Air France, c'est en fonction des personnes et de l'endroit où ils veulent créer leur entreprise que, effectivement, les fonds sont redispatchés, c'est ça ?
Alors, il y a une double réflexion dans l'algorithme de sélection de ces territoires. Vous avez, sans trop rentrer dans le sujet, hein, vous avez des territoires où Air France a supprimé des emplois. Donc là, on est intéressé par les territoires de Roissy et d'Orly. Roissy 95, 93, 77, et ensuite Orly. Et puis, vous avez des sujets qui ne sont pas impactés par la notion de territoire. Et donc là, c'est sur tout le territoire national. Par contre, on va flécher sur des thématiques qui sont la transition écologique, qui sont le secteur adapté. Donc, dès qu'on arrive à identifier des projets qui sont portés par ces thèmes-là, on peut flécher des fonds de revitalisation.
Donc, secteur adapté, c'est dans le cadre du handicap ?
Exactement, dans le cadre du handicap, tout à fait.
D'accord. Idir, un commentaire ?
Et alors, effectivement, au-delà des fonds et des flux financiers que constitue la revitalisation, le partenariat entre la Sodésie et Réseau Entreprendre, c'est que Réseau Entreprendre peut aussi prendre le relais et prend le relais pour accompagner les porteurs de projets de la Sodésie, anciens salariés d'Air France, dans l'accompagnement à la création et au développement de leur entreprise.
Alors c'est important ce que nous dit le président de Réseau Entreprendre 93, puisqu'on finance jamais en direct des projets, on passe par des intermédiaires et des prescripteurs. Hein, et c'est l'esprit et la finalité de ce que fait le Réseau Entreprendre.
D'accord, donc il y a bien une complémentarité. Donc si on prend quelqu'un qui est susceptible d'être éligible dans le cadre d'Air France, le process est lequel ?
Le process, c'est qu'il faut se rapprocher de la Sodésie, nous dire quels sont le type de projets qui vont créer de l'emploi sur un territoire. Ensuite, nous, on travaille de concert avec la structure, on identifie les prérequis, parce qu'il y a toujours des prérequis. Et ensuite, on met en branle tout le schéma, tout le processus de financement des projets.
D'accord. Et c'est dans ce cadre-là, parce que on le voit bien, ça ne s'improvise pas quand même de devenir chef d'entreprise. Ouais. Donc même si au fil des années le côté parcours du combattant a été allégé, ça reste quand même une démarche qui est lourde et structurée. Donc avant d'arriver chez Réseau Entreprendre, il y a sûrement un travail en amont à faire.
Alors d'abord, la règle, et là je parle sous le contrôle de Jacques et de Edir, quand vous créez une entreprise, nous ce qu'on conseille à des porteurs de projets, c'est d'être bien accompagné. Il y a une multitude de structures qui font de l'accompagnement. Je parle de Réseau Entreprendre, mais je pourrais aussi parler des réseaux initiatives. L'idée quand même, c'est que c'est plus simple pour ces porteurs de projets de se rapprocher de ces structures-là, qui identifie un peu tous les process de financement qui existent. Et donc nous, l'encouragement, enfin ce qu'on préconise, c'est que ces porteurs de projets se rapprochent déjà de structures qui font de l'accompagnement et de l'appui à la création d'entreprise. Et ensuite, éventuellement, donc si on a des fonds de revitalisation qui sont fléchés sur, je dis n'importe quoi, de l'investissement productif, sur le secteur adapté, sur le financement d'un prêt d'honneur, et voilà. Mais l'idée, c'est toujours de se rapprocher d'une structure qui fait de l'accompagnement à la création d'entreprise.
D'accord. Et par rapport à Diez, comment ça se positionne et que fait exactement Diez par rapport à Sodésie ?
Effectivement. Alors, ce sont deux structures complètement autonomes. Hein, vous l'avez compris, la Sodésie, c'est une filiale détenue à 100% par le groupe Air France. Alors que Diez, c'est une association, loi de 1901, dont la finalité, c'est de faire la promotion de ce qu'on appelle l'essaimage. Alors, c'est quoi cette association ? C'est une association.
Alors, déjà, l'essaimage, qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'essaimage, c'est quoi ? C'est la possibilité, c'est le cadre légal, la possibilité qui est donnée à un salarié d'une entreprise, d'une PME ou d'un grand compte, de quitter l'entreprise et de créer son entreprise. Donc, il existe un cadre légal, c'est un article de loi du Code du travail, qui dit que lorsque vous avez une certaine ancienneté dans une entreprise, vous pouvez prendre un congé pour création d'entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle l'essaimage à froid. Donc, c'est le cadre légal. Je décide de suspendre mon contrat de travail, de créer mon entreprise. et ensuite de revenir si nécessaire ou de repartir sur son projet de création d'entreprise.
Donc c'est un peu l'ancien congé sabbatique que les gens prenaient pour essayer de lancer un projet, et puis si ça marche pas, ben,
exactement,
ça s'intègre ma structure.
Ça s'assimile à ça parce que d'accord, c'est du sans solde en réalité, effectivement. Allez, après, au contraire de l'essaimage à chaud, où là c'est plutôt un essaimage qui est, c'est une création qui est subie entre guillemets, et on a parlé en préambule tout à l'heure, Paul, de ce que c'est que le plan de départ volontaire. Typiquement, hein, des plans de départ volontaires constituent ce qu'on appelle l'essaimage à chaud. Ce sont des salariés qu'on va accompagner et dont la finalité est de quitter l'entreprise. Ils vont être accompagnés par une structure ad hoc, et l'accompagnement, c'est un financement, c'est une formation et c'est du conseil. Donc l'essaimage à froid, il est choisi. L'essaimage à chaud, il est subi, entre guillemets, même s'il y a une démarche volontaire derrière.
Mais c'est donc plus compliqué pour les gens qui se trouvent dans le cas de l'essaimage à chaud, parce que finalement, ils se trouvent confrontés à un problème qu'ils n'avaient pas imaginé et qu'ils essayent quelque part de positiver en disant, bah tiens, c'est peut-être l'occasion de...
Exactement. Hein, c'est ça. Alors, encore que dans le mot plan de départ volontaire, vous avez le mot volontaire. Hein. C'est toujours une démarche volontaire, c'est jamais imposé en réalité.
D'accord, mais dans le cadre d'un PSE, ça le devient. Parce que en règle générale, c'est là aussi imposé de manière réglementaire. Les ordres de départ en fonction de toute une série de critères, etc.
J'ai une philosophie bien particulière sur les plans de départ volontaires, qui est celle de mettre en avant ce qu'on appelle la frugalité entrepreneuriale.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est quoi la frugalité entrepreneuriale? C'est faire d'une contrainte une opportunité. Et c'est ça le sens de la vie, le sens de la vie professionnelle. Tous autant que nous sommes ici, on a rencontré des échecs. Et ce qui est important,
c'est... Non, pas y dire, il a rencontré que,
si, encore, parce qu'il que des jeune, victoires. Il est très jeune, c'est pour ça, donc, il est plus jeune que Jacques et moi.
Sans échec, pas de réussite, donc forcément.
Sans échec, pas de réussite, et ce qui est important...
Et on apprend de ses échecs,
voilà, exactement.
Et on sait qu'en France, c'est compliqué de faire passer ce message-là.
Non, mais d'abord, c'est ça, dans le monde du salariat, et même dans le monde entrepreneurial, et Edir est bien placé pour le savoir, mais je pense que Jacques aussi, hein, on va à la rencontre d'échecs, et ce qui est important, c'est pas tant de rencontrer un échec, ce qui est important, c'est quelle est notre capacité à rebondir suite à un échec. Et c'est ça la frugalité. Je vais faire d'une contrainte une opportunité. Donc de mes échecs, je vais apprendre et je vais faire mieux. Et un plan de départ volontaire, c'est un petit peu ça. C'est qu'on a ils ont une opportunité. Les salariés ont une opportunité. Et encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Donc l'opportunité, c'est qu'on leur donne la possibilité de créer une entreprise. Et à l'issue de ça, ils vont rebondir par rapport à ce projet.
Et quand ces collaborateurs saisissent cette opportunité et qu'ils passent les portes du réseau Entreprendre, ils ont tous les moyens pour permettre à leur projet entrepreneurial de réussir, puisque chez Réseau Entreprendre, le taux de pérennité à 3 ans est de 92%, contrairement à la création d'entreprise en France, qui est plutôt de l'ordre de 52-55% en fonction des années. Donc se donner toutes les chances de réussir, c'est en ouvrant les portes de Réseau Entreprendre, mais pas que, mais bien évidemment de Réseau Entreprendre en priorité.
Oui, c'est la notion d'accompagnement par ses pairs, finalement. On va marquer une première pause.
J'ai l'impression... d'une vie en diapositive, en projection. On me dit patience, mais le présent m'assassine. Suis-je trop en avance? C'est quoi la cadence? Avant ou après, je ne sais plus. Au futur, au passé, ma tête est dépassée. Elle fait des allers-retours. Dedans. Tout m'éblouit, c'est fascinant. Autour de nous, rien d'important. Mais de côté, les faux semblants viennent. On remonte le temps. Avant ou après, je ne sais plus. Au futur, au passé, ma tête est dépassée. Elle fait des allers-retours. En manque d'ancrage, on perd. Je m'en perds mon maquillage.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio, IDFM 98 et 98.fr. Nous sommes toujours avec Idir Hamidi, qui est le vice-président de Réseau Entreprendre Île-de-France et président de Réseau Entreprendre Seine-Saint-Denis. Jacques Deray de JD Co et de JLD Invest et administrateur Réseau Entreprendre Seine-Saint-Denis. Et Mano Grady, responsable de la SODESI et président, j'avais pas précisé, président de Dièse. Donc on va continuer sur Dièse. Déjà, l'acronyme, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que souvent, moi, j'aime bien comprendre les noms des structures. Alors, surtout dans les entreprises, parce que il y a en plus un côté marketing, mais dans une association, c'est aussi important. Donc déjà, Dièse, c'est vous mettez les choses en musique. Mais de quelle manière?
Alors, et c'est vrai qu'on constate que dans l'écosystème entrepreneurial, on parle beaucoup en acronyme. Hein. Alors, Dièse, ça signifie quoi? Ça signifie développement de l'initiative et de l'entrepreneuriat chez les salariés des entreprises. Qu'est-ce que c'est concrètement? Dans toutes les grandes entreprises, ou dans la plupart des grandes entreprises, vous avez une filiale, un département, un service, une personne qui est dédiée à l'accompagnement des salariés du groupe sur des projets de création d'entreprise. C'est-à-dire qu'il existe des SODESI bis chez EDF, à la SNCF, chez Total, Orange, etc., etc. Et Dièse, c'est une association qui est née d'un postulat, qui est de dire, depuis 20 ans déjà, comment on fait pour accompagner nos salariés sur des projets de création d'entreprise et comment on fait pour leur donner cette ambition-là, éventuellement, de créer une entreprise à l'issue de leur présence dans une grande entreprise. Donc, ce sont une vingtaine de grands comptes. Je les ai cités tout à l'heure, hein, mais dans les membres du bureau, vous avez Air France, vous avez Airbus, vous avez La Poste, vous avez EDF et encore deux ou trois entreprises. On se réunit une fois par trimestre et on fait un échange de best practice. Et on fait surtout la promotion de ce que c'est que l'essaimage. Alors je rappelle, j'aime à rappeler que l'essaimage, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le principe de ce qui se passe dans la nature, dans l'écosystème, dans le biotope de la nature. C'est-à-dire que vous avez un essaim. Dans cet essaim, vous avez une abeille surnuméraire qui décide de quitter son essaim et de créer son propre essaim. Et ben, c'est le principe de ce que c'est que l'essaimage. Un salarié dans une grande entreprise qui décide de quitter sa grande entreprise pour créer sa propre entreprise. Et pour ce faire, il va être accompagné par la grande entreprise qui va mettre en place un dispositif d'accompagnement, de financement, de conseil, de mise en relation avec son réseau. Et c'est ça la mission de Dièse, hein, c'est de faire la promotion de ce que c'est que l'essaimage et d'accompagner au mieux tous nos salariés de ces grands comptes à créer leur entreprise. Et c'est d'autant plus important qu'il y a 3 ans, la population des créateurs d'entreprises, c'était majoritaire, c'était les demandeurs d'emploi. Et depuis 3 ans, la plus grande population des créateurs d'entreprises, elle est issue du monde du salariat. Ça, c'est important.
D'accord. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Tous ces grands groupes ont des entités équivalentes.
Exactement,
à la SODESI,
tout à fait,
qui sont membres de Dièse.
Exactement.
Mais j'ai l'impression que dans les missions de Dièse, en dehors des best practices, donc des meilleures pratiques qui sont partagées entre ces grands groupes ou leurs filiales dédiées à cette activité, la vraie valeur ajoutée de Dièse par rapport à ça, puisque vous avez l'air d'accompagner aussi.
Ouais, voilà,
donc, alors, à quel moment c'est complémentaire ou en double?
Effectivement, on a l'impression qu'il y a une dualité entre ce que font ces structures-là et ce que fait l'association Dièse. Mmh. Alors, et vous avez d'autant plus raison qu'on travaille tous de façon différente. D'accord? Certains vont privilégier du prêt d'honneur, certains vont privilégier du conseil, d'autres comme la SODESI vont privilégier de la formation à la création d'entreprise. Mais ce qui est important, c'est qu'on va se réunir une fois par an au moins, et une fois par an, l'association Dièse va organiser une grande soirée, la soirée des SME, où on va chacune des grandes entreprises va mettre à l'honneur une start-up, un projet, une reprise d'entreprise d'un salarié qui est parti quitter le groupe. Donc on va mettre en lumière, on va mettre en avant un salarié qui est parti. Et c'est ça le point commun, le dénominateur commun. Une fois par an, on se réunit, on fait une grande soirée où on met en avant des salariés qui ont quitté l'entreprise.
D'accord. Donc finalement, c'est la soirée des lauréats qu'on retrouve dans Réseau Entreprendre. Hein,
C'est exactement ça.
Ils ne sont pas encore lauréats, mais ils sont déjà
mis en lumière.
Potentiel.
Mais ils ont déjà tous créé, surtout. C'est ça qui est important.
Ils ont créé. D'accord.
Alors, ils sont créés et mis en lumière.
Oui, dénoncer notre cher ami Mano Madi, car au-delà de ses fonctions à responsabilité à la SODESI et chez Dièse, Mano Madi vient aussi, dans son expérience précédente, de la grande famille Réseau Entreprendre, puisqu'il a été, si je ne dis pas de bêtises...
Le directeur.
Directeur...
dans le Val d'Oise. Donc il connaît très bien le Val d'Oise.
Il connaît notre association, donc effectivement, oui. Il y a des réflexes communs, même si on est totalement complémentaires.
Mais moi, je vous encourage tous à prendre, à piquer les meilleures idées. Et j'ai piqué cette idée-là quand j'étais chez Réseau Entreprendre, effectivement.
De toutes les façons, on n'invente rien, on reprend. C'est souvent le numéro 2 qui est le plus performant parce qu'il améliore les idées de l'initiateur. Donc,
En parlant d'initiateur, je voudrais quand même qu'on rende hommage à un grand monsieur qui est André Mullier. Oui. André Mullier, vous savez, le dirigeant fondateur du groupe Auchan, entre autres, Fildar, qui en 1986, on parle d'essaimage, on parle de revitalisation, avait eu une catastrophe en termes d'emploi dans
avec
le nord,
Fildar.
Voilà,
avec
dans
Fildar.
Le nord de la France, hein, l'économie française s'en rappelle. Et sa réaction, ça a été de se dire, nous allons créer des emplois en créant des employeurs. Donc c'était son premier mouvement en 1986 et nous ne sommes que l'héritage de cette idée, de cette pensée qui depuis a essaimé également chez les chefs d'entreprise pour créer aujourd'hui 126 implantations en France et dans 10 pays. Voilà.
Et pour compléter le propos de Idir, la fille d'André Mullier, Blandine Mullier, a repris aussi cette action au travers d'une belle fondation qui s'appelle la Fondation Entreprendre.
Absolument.
Alors, je vais quand même revenir à la Sodésie, parce qu'ils vont pouvoir parler de réseau entreprendre après, donc là, notre point, c'est quand même la Sodésie. Donc, quels sont les outils qui sont mis à la disposition des salariés qui veulent effectivement, dans le cas d'un départ volontaire ou autre, sont désireux de créer leur propre entreprise.
Effectivement, alors dans le cadre d'un départ volontaire, les salariés du groupe Air France sont accompagnés individuellement par des conseillers, par des consultants de la Sodésie, des conseillers en création d'entreprise, durant une période de 10 mois. Hein, donc c'est pendant cette période-là, on l'appelle le congé de reclassement ou le congé de mobilité. Et durant ces 10 mois, donc chacun des salariés va être accompagné par un consultant en entrepreneuriat de la Sodésie, donc du conseil individuel. Parallèlement à ça, Air France va financer aussi des formations liées au futur métier qui va être exercé. Je dis n'importe quoi, quelqu'un qui veut se lancer dans la boulangerie, Air France peut financer justement sa formation inhérente à cette activité réglementaire. Et puis, on organise aussi une formation qui s'appelle la formation Le Pass Créa, qui est une formation à la création d'entreprise qui se déroule sur 5 jours, en présentiel ou en distanciel. Et durant cette formation, non seulement la Sodésie va intervenir, mais on va faire intervenir des acteurs de l'entrepreneuriat. On fait intervenir notre écosystème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés qui vont bénéficier de cette formation vont être en contact avec des experts comptables, des avocats, des banquiers, des spécialistes du marketing viral, etc. etc. Donc c'est aussi ça l'accompagnement de la Sodésie, c'est mettre à disposition de nos salariés tout un écosystème. Parce qu'on se rend compte que c'est important de mettre en relation des salariés avec un avocat. Ce sont des hommes de lettres et des hommes de loi surtout, qui vont les accompagner, par exemple, sur la rédaction des statuts. Donc, cette formation Passe-Créa, c'est une formation qui a lieu au moins une fois par mois. Donc, ça fait partie du packaging qu'on propose aux salariés.
Présentiel, distanciel.
Présentiel, distanciel.
D'accord. Il y a d'autres j'allais dire, produits d'accompagnement qui permettent soit de mettre en valeur, soit de continuer à accompagner.
Oui, tout à fait. Donc, on organise aussi des ateliers thématiques sur comment, par exemple, créer son site internet. Donc, voilà, c'est des ateliers thématiques qui sont plus orientés sur des thèmes bien particuliers. Ce qui est important par rapport à ce plan de départ volontaire ou aux différents plans de départ volontaire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut s'enorgueillir d'une statistique un peu communiste d'ailleurs, qui est celle de dire que 100% des salariés qui sont accompagnés par la Sodésie créer leur entreprise à l'issue du congé de reclassement. Donc c'est juste une stat incroyable. Hein. Donc 100%. Ouais. D'accord. Donc sur un des derniers plans de départ volontaire, on a accompagné plus de 500 salariés qui ont décidé de créer. Et c'était durant la période de la Covid en plus. Hein. Et tous ont créé. Donc ça, c'est assez extraordinaire.
Vous leur avez pas tout dit.
C'est un gars. Oui, alors,
vous leur avez pas tout dit. C'est des surprises.
Bon, c'est un gage peut-être de la qualité de l'accompagnement des collaborateurs de la Sodésie. Voilà comment on va le tourner.
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, vous m'aviez parlé, quand on a préparé l'émission, vous m'aviez parlé aussi de la Creative Week, mais je ne sais pas si c'est du dièse ou si c'est une activité Sodésie.
Plus Sodésie, là. Alors, on devient des spécialistes de l'organisation d'événements qui sont liés à l'entrepreneuriat. Alors, vous avez parlé de la Creative Week, hein. Très rapidement, une fois par an, EDF, au travers de la FIPA, c'est encore une fois un acronyme, organise un concours de création d'entreprise à destination des alternants des grands comptes. Et bon, très très simplement, une trentaine d'alternants sont sélectionnés de 20 grands comptes différents que j'ai cités tout à l'heure. Et l'idée, c'est que c'est donner la possibilité à ces alternants qui ont un projet de création d'entreprise d'être accompagnés, coachés durant une semaine. Donc il y a un format, pendant une semaine, ces alternants seront réunis, ils vont être coachés, mentorés, tutorés, tout est pris en charge. Et c'est la Sodésie qui organise ce programme d'accélération. Ça se déroule une fois par an. en général sur le site d'EDF qui se trouve à Saclay. Et cette année, ce sont les 10 ans, ça va s'organiser à l'international. On va organiser cette Creative Week à Barcelone.
Et alors, et la nuit des loups-garous, c'est la même chose?
Non,
ou c'est différent?
Et là, on est plus sur un programme intrapreneurial.
Alors, expliquez ce que c'est l'intrapreneuriat.
L'intrapreneuriat par opposition à l'entrepreneuriat. L'intrapreneuriat, c'est accompagner des salariés sur la posture de l'entrepreneuriat au sein d'un grand compte. Donc, l'idée, c'est comment on travaille en mode start-up dans une entreprise, dans une grande entreprise. La finalité, c'est pas de quitter l'entreprise. La finalité, c'est de travailler sur les soft skills. C'est de proposer un produit core business à un grand compte. Donc, on ne quitte pas l'entreprise. On travaille sa créativité, son innovation sur un projet qui va servir la grande entreprise.
D'accord. Et vous avez aussi, comme réseau d'entreprendre, des booster camps.
Et on organise, c'est bien, c'est un beau mot le booster camp, non?
C'est une très bonne idée, mais c'est une très bonne idée de la reprendre aussi.
Exactement.
Donc, alors, et de la diffuser.
Alors, c'est quoi la nuit de loup-garou? Très rapidement, c'est pendant une nuit, vous avez 200 alternants, 200, ce qui est beaucoup, hein, qui sont réunis dans un hôtel et ils vont travailler de 18h à 6h du matin. Ils vont faire de l'idéation, ils vont faire du prototypage, ils vont faire de l'analyse financière, ils vont être accompagnés par des coachs. Alors pourquoi ça s'appelle la nuit des loups-garous? Parce que quand on avait commencé à lancer ce programme-là, on avait... Alors, il y a une histoire derrière, hein, c'est qu'on avait accompagné un jeune alternant qui avait 18 ans de chez Air France, qui était d'une timidité maladive. Et à l'issue de ce programme, c'était devenu un monstre. Donc, ce programme intrapreneurial lui a permis de libérer ses chakras et de s'exprimer au travers d'un projet intrapreneurial. Et c'est la raison pour laquelle on a appelé ce programme-là la nuit des loups-garous. C'est la nuit de la métamorphose, en réalité.
Je reviens sur Diez. Est-ce que c'est facile de sensibiliser les RH des grands groupes?
Non.
Sur toute cette partie entrepreneuriat et effectivement voir les talents en interne qui sont susceptibles de créer leur entreprise et qu'on n'a pas forcément envie, j'allais dire, la tendance naturelle, c'est de vouloir garder ces gens-là. Donc, c'est un peu paranoïaque.
Non, mais vous avez tout résumé, Paul. Hein. C'est ça, c'est comment je fais au sein de mon entreprise pour faire la promotion de l'entrepreneuriat au risque de voir partir mes meilleurs éléments. Et alors, je ne sais pas si c'est de la schizophrénie, mais en tout cas, on ne va pas contre le sens de l'histoire, en réalité. Hein, vous avez un salarié qui a un projet de création d'entreprise, tôt ou tard, il partira, qu'il soit accompagné ou pas. Donc, l'idée, c'est comment faire en sorte de l'accompagner du mieux possible. C'est ça, la réalité de l'accompagnement de l'entrepreneur. Et les RH le comprennent de plus en plus. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 ou 3 ans, chez Air France, on a mis en place un programme qui s'appelle « Comment identifier l'ADN entrepreneurial chez vos salariés ?» Et moi, j'ai fait un peu le tour de France pour accompagner des RH, pour les sensibiliser, pour les évangéliser sur ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et donc, je leur ai donné quelques codes pour leur dire, voilà, si vous avez un salarié qui vient vous voir, qui vous pose des questions sur l'entrepreneuriat, voilà le type de questions qui revient fréquemment. Et voilà les premiers éléments de réponse que vous pouvez leur donner.
Jacques Deray.
Ouais, moi, j'étais convaincu. À l'époque, j'étais président d'un grand groupe américain. Et j'étais convaincu que tous mes salariés n'apprendraient pas complètement à l'intérieur de ce groupe. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le réseau Entreprendre, d'ailleurs. En me disant, ça va, quand j'ai compris ce qu'on faisait dans le réseau Entreprendre, je me suis dit, ça va déjà permettre au moins à mon comité de direction, qui a des talents différents, des fonctions différentes, de se confronter leur savoir-faire et leur expérience avec le monde de l'entrepreneuriat et des entreprises qui se créent. Et en fait, moi, je suis rentré dans le réseau pour faire rentrer mon comité de direction. Ils sont rentrés, ils ont été instructeurs, ils ont été dans les comités d'engagement, ils ont été... Alors, certains sont restés dans le groupe, et certains, j'en connais aujourd'hui, qui... Alors, est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est autrement? Toujours est-il que je leur ai donné l'envie d'être partie prenante d'une création d'entreprise. Et je trouve que le réseau offre pour les grands groupes cette possibilité-là qui est très intéressante, d'avoir des collaborateurs qui vont se plonger soit sur des dossiers de sélection, soit ensuite d'accompagner, d'être dans le comité d'engagement. Donc toute une série de domaines du réseau Entreprendre qui permet de préparer. Moi, c'était pas du tout, je cherchais pas à les pousser à sortir, hein, mais je me rendais compte qu'ils n'apprenaient plus. Et que le fait de pouvoir être confronté à d'autres mondes d'entreprise leur permettait d'apprendre.
C'est d'autant plus intéressant que pendant des années, on a opposé le monde de la grande entreprise du monde de la start-up, alors qu'il existe des passerelles, alors que l'un va alimenter l'autre. Un des sujets les plus prégnants qui existent aujourd'hui, c'est qu'on parle de plus en plus d'open innovation. Qu'est-ce que c'est que l'open innovation? Ce sont des grands groupes qui vont chercher une expertise du business auprès de startups qui viennent de l'extérieur et qui vont les accompagner sur du financement ou du capital risque. Donc c'est ça, aujourd'hui, on ne peut plus opposer ces deux mondes-là, et les deux s'alimentent et les deux sont complémentaires.
Bah, on le voit beaucoup avec les GAFA qui, à un moment, n'arrivent plus à s'auto-générer des idées et vont se diriger vers ces startups pour alimenter une réflexion, des fois, qui est bien plus avancée que la leur. Ouais. Donc c'est tout à fait vrai. Une question à tous les trois. Tout à l'heure, Mano disait, pendant le Covid, 500 projets. Est-ce qu'il est facile d'entreprendre aujourd'hui en France?
Idir. Je voudrais prendre la parole. Effectivement, nous, les statistiques sur notre association, en tous les cas pendant la période de pandémie et de crise, on n'a jamais eu autant de créateurs expérimentés, parce qu'effectivement, l'arrêt du travail, dans le sens conventionnel du terme, a donné des idées. Hein. On a tous entendu parler des salariés qui partaient à la campagne. Et donc, dans ces idées, la création d'entreprise était bien évidemment au cœur. Donc, on a fait, nous, deux belles années, c'est triste à dire, hein, mais en période de crise, on a fait deux belles années en termes d'accompagnement, de financement et de créateurs et de créatrices d'entreprises.
C'est pas triste, c'est très bien. Pourquoi triste?
Parce que
au contraire,
pandémie,
c'est une bonne nouvelle. Non, parce que c'était pas une bonne nouvelle, le Covid.
Le Covid n'était pas une bonne nouvelle, voilà, mais que les gens
c'était pas une bonne nouvelle. Et franchement, je pense que il y a eu beaucoup d'échanges pendant cette période de Covid entre les salariés, entre les dirigeants et les salariés. Et je crois que ça a facilité des portes ouvertes, de se dire, après tout, pourquoi pas? Si j'ai ça dans la tête depuis longtemps, bah, Covid ou pas Covid, finalement, on l'a eu avec le réseau Entreprendre, mais je pense qu'il y a eu plein d'autres initiatives pendant cette période. J'en parlerai tout à l'heure, mais...
Et pour un retour d'expérience, Mano m'a dit, nous le précisait tout à l'heure, dans le passé, on avait beaucoup de créateurs d'entreprises qui étaient enfin des personnes inscrites au Pôle emploi, hein, des demandeurs d'emploi qui en reconversion. Et la crise l'a souligné encore plus, des salariés, des cadres qui créent leur entreprise, également des jeunes issus de grandes écoles, de belles formations qui ont osé passer le cap, alors qu'avant, on avait effectivement beaucoup d'autodidactes, beaucoup de demandeurs d'emploi qui, pas par dépit, hein, mais qui créaient leur entreprise issue de cette cible, de ce profil. Et là, le Covid a démontré la possibilité de se reconvertir, la reconversion au sens large du terme, et se reconvertir vers la création d'emplois.
Mano,
Pour répondre à la question de Paul, il y a une donnée qui est factuelle. Statistique, le nombre de créations d'entreprises en France. Il y a deux ans, on était à 850 000 créations d'entreprises, statut d'auto-entrepreneur compris. L'année dernière, on a dépassé le million de créations d'entreprises. Donc ça, c'est une donnée qui est factuelle, d'accord? Donc ça veut dire qu'on n'a jamais autant créé en France que durant ces années de Covid. Après, un élément de définition qui va nous permettre de bien comprendre ce que c'est qu'entreprendre. Alors si je reprends une définition, entreprendre, la définition latine, c'est interpréhendere. Interpréhendere, ça veut dire prendre par la main, mais en réalité, ça veut dire prendre en main. Et on prend en main son destin. Et c'est ça l'entrepreneuriat, la création d'entreprise. Durant cette période de Covid, il y a beaucoup de gens comme moi. Moi, j'ai été heureux durant cette période de Covid, entre guillemets, parce que je me suis recentré sur moi-même et sur ma famille. Et la question, c'était quel est le sens que je me donne et quel est le sens que je donne à mon avenir professionnel qui est corrélé à ma famille. Et c'est ce qui s'est passé auprès de beaucoup de milliers de Français qui se sont dit, voilà, quel est le sens que je veux donner à ma vie? Et ben, je vais profiter de cette période-là pour réfléchir à créer une entreprise, à créer mon projet. C'est ça, hein, entreprendre, c'est créer son projet. Donc moi, je vais dans le sens de ce que disent Idir et Jacques. Hein, effectivement, on n'a jamais autant créé. Et c'est ça qu'il faut retenir, hein, malgré cette période très, très compliquée.
Oui, absolument.
Je vous interromps, désolé Jacques. J'ai encore deux petites questions à vous poser. Et puis après, on marquera une pause et on reprendra après notre discussion. Les deux petites questions, il y en a une, c'est vous avez le projet de sortir une bande dessinée sur l'entrepreneuriat. Ça n'a rien à voir, c'est un projet personnel.
Oui, alors pour information, il y a 10 ans, j'ai lancé déjà, hein, j'ai lancé le volet 1 avec le scénariste de la bande dessinée Lucky Luke. On s'est réunis parce que j'avais une idée. Je faisais souvent du conseil en création d'entreprise quand je travaillais auparavant et je me suis rendu compte qu'on me posait toujours les mêmes questions. Et je me suis dit, bah, c'est génial, je vais faire un bouquin. Sauf que, il faut savoir que tous les ans, il y a 100 bouquins par an qui sortent sur la création d'entreprise, ce qui est énormissime. Donc, quelle est la proposition de valeur différenciante d'un bouquin que je vais faire? Et c'est là que je me suis dit, bah tiens, je vais pas faire un ouvrage classique, je vais faire une bande dessinée, ça n'existait pas. Et sauf que je suis pas du tout dessinateur, moi. Et le monde de la bande dessinée, je connais pas. Donc, j'ai mis en place, j'ai mis en phase tous les process de ce que c'est que gérer, créer une entreprise. Donc, je me suis rapproché d'un professionnel de la bande dessinée. Et là, c'était Xavier Fauche, qui était scénariste de la bande dessinée, un des scénaristes de la bande dessinée Lucky Luke. Je lui ai parlé du projet. On s'est rencontrés le lendemain. Le lendemain, on a créé une boîte qui s'appelait à l'époque Pacte pour apprendre à créer et transmettre une entreprise. On a rencontré un pool de financeurs. On s'est réunis. On a décidé de lancer cette bande dessinée. J'avais le scénario, je l'avais en tête. Lui, il dessinait. Et puis, le titre, c'était l'ouvre-boîte. Ça, c'était il y a 10 ans. La BD est sortie. On a gagné beaucoup d'argent. Hein, c'était à l'époque. C'était un modèle de B2B. On m'a souvent relancé ces temps-ci pour me dire quand est-ce que tu fais le volume 2. Et là, depuis 3 ou 4 mois. Donc, je travaille aussi sur ce projet avec un autre dessinateur. Et je vous donne, en exclusivité le nom de la bande dessinée. Ça va s'appeler Startup Land. Et c'est l'idée, c'est le pitch, parce que il y a toujours un pitch, c'est une alternante qui travaille dans un grand groupe et qui décide de créer son entreprise. Et donc, pour créer son entreprise, on va lui faire rencontrer l'ensemble de l'écosystème qui va l'accompagner sur son projet de création d'entreprise.
C'est presque du vécu.
Et voilà, exactement. C'est presque du vécu.
Dernière question. Votre meilleur souvenir professionnel ou votre plus grande satisfaction professionnelle?
Alors, le paradoxe, c'est que mon meilleur souvenir, c'est mon pire souvenir. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure en liminaire, en préambule. Moi, je suis content quand j'ai des échecs dans ma vie professionnelle. Pourquoi ? Parce que c'est l'occasion pour moi de me renouveler, de changer et de faire d'une contrainte une opportunité. À chaque fois, j'ai cette capacité à rebondir et à chaque fois, quand je repars sur un autre projet salarial, c'est toujours mieux. Et c'est comme ça qu'au travers de mes différentes expériences, j'ai rencontré cette belle et noble maison qui est Raison Entreprendre. Et là, je te passe la balle pour la transition.
Ben on va marquer une pause. Merci Mano.
From Baman Diet, Libyanka. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me?
In bed, but my mind stay wandering, overthinking, but I'd rather be sleeping. Grab a drink, I need escape now. 247, I be in this state now, but I can no longer depend on it. I become my own enemy. I don't question my own sanity. Waiting to be saved, but I. They make you not leave me deep.
Oh, don't let go. 9 to 5, 9 to 5, baby. I'm the one, say I'm the one, okay. Time to time, they check on me, baby. Once a while, cause I've been drinking more alcohol. So I don't give a fuck, cause I'm always by myself. I don't really need your help. Yes, I smoke weed, I can't find peace. I stay hungry, don't need much. See this vibe, oh, cannot force it.
I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? You look for me. I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Or did you notice me? I've been drinking more alcohol for the past
Vous êtes toujours sur Radio IDFM. Merci d'être toujours avec nous. Et toujours, encore une fois, toujours, nous sommes avec Manon Grady de la Sodésie et de Dièse, avec Jacques Deray de JD Encom et JLD Invest. Et IDIR à midi. Donc là, je ne vais pas refaire la litanie de tous vos titres. Je vais vous laisser vous présenter, IDIR.
Oui, merci, Paul.
On commence peut-être par vos sociétés, puis après, on abordera plus l'aspect associatif.
On peut même passer sur mes sociétés, parce que je préfère promouvoir et parler des associations.
Juste rapidement, quand même. Parce que vous êtes lauréat du réseau Entreprendre, donc c'est déjà un lien.
J'ai été lauréat, effectivement, en 2013. Je suis entrepreneur au sens large depuis une vingtaine d'années. J'ai créé, repris, dirigé une vingtaine de sociétés dans les services en règle générale, dans la restauration, les métiers des CHR pour la grande majorité. Et puis, j'ai été donc dans ce cadre, suite à une mésaventure entrepreneuriale d'un associé qui m'a fait faux bond à la dernière minute, j'ai été frappé à la porte du réseau Entreprendre pour obtenir un petit bonus financier à travers un prêt d'honneur. Je pensais y aller uniquement pour ce petit chèque. Et je suis ressorti de là avec le chèque, avec un accompagnement et puis avec une grande famille.
Alors, la notion de prêt d'honneur, peut-être, l'expliquer ou la réexpliquer ?
Alors, le réseau Entreprendre, cette association donc créée en 1986, a pour vocation de consentir des prêts d'honneur de 10 000 à 50 000 euros en moyenne à des porteurs de projets sans intérêt, sans caution, sans garantie. Donc vous venez chez nous, vous passez le parcours. Si vous réussissez le parcours d'intégration, vous ressortez avec un chèque que vous remboursez avec 18 mois de différé sur 5 ans, sans intérêt, je répète encore. Et en plus de ça, vous bénéficiez d'un accompagnement, un accompagnement collectif et individuel. Collectif parce que vous échangez avec toute votre promotion, c'est-à-dire tous les créateurs de la même année que vous, à raison d'une réunion par mois, vous échangez justement sur vos échecs, vos réussites, vos réflexions. Et vous avez un accompagnateur qu'on n'appelle pas parrain chez nous, un accompagnateur, c'est-à-dire un ou une dirigeante, chef d'entreprise, bénévole, qui vous accompagne pendant 2 ans, à raison d'une réunion par mois. Et tout ça, ça donne des créateurs d'entreprise qui ont un très fort potentiel en termes de création d'emplois, un très fort potentiel en termes de croissance d'activité, et surtout, on le précisait tout à l'heure, une pérennité de 92% à 3 ans. Parce qu'attention, au revers de la médaille de cette forte croissance des créations d'entreprises que nous vivons depuis 2 ans, la statistique nationale, 44% de casse au bout de 3 ans. Donc nous, on est toujours très inquiets et très vigilants chez Réseau Entreprendre à ce ratio, c'est la pérennité. Donc en ouvrant les portes du Réseau Entreprendre, vous garantissez un taux de pérennité de 92%.
Alors, comme vous êtes également vice-président de Réseau Entreprendre Île-de-France, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres pour qu'on voit ce que représente Réseau Entreprendre sur l'Île-de-France, sachant que, grosso modo, l'Île-de-France est 25% du potentiel économique de la France. Donc, quand on parle de l'Île-de-France, on parle du poumon, surtout dans une organisation qui est quand même très centralisée en France. On parle vraiment du cœur ou du poumon de la France.
Alors, Paul, je vous sens un peu chauvin pour l'Île-de-France, parce que vous devez certainement être de cette région. Je serais très fier de pouvoir dire cela, mais nous avons de très belles régions, l'ouest de la France, le nord de la France, qui est très créatif. Pour les chiffres de l'Île-de-France, concrètement, ce sont donc les associations des 8 départements. L'Île-de-France, c'est en chiffres 3600 demandes entrantes. Un chiffre qui parle beaucoup, c'est que nous accompagnons 300 personnes pour 230 projets, parce que vous avez bien évidemment des projets où vous avez par an, exactement. Sur ces projets, ils créent la première année approximativement 1000 emplois. Et sur 3 ans, chaque promotion crée approximativement 4000 emplois. Nous, sur l'Île-de-France, l'année dernière, 5 millions d'euros prêtés sur ce prêt d'honneur. Nous avons actuellement 13 millions d'euros, excusez-moi, en cours de remboursement. C'est pour vous donner à peu près une valeur. Et comme on parle d'hommes et de femmes, une des valeurs très importantes chez Réseau Entreprendre, c'est nos membres. Nous avons sur l'Île-de-France 1200 membres qui donnent 13 000 heures, excusez-moi, de bénévolat. Et ils sont appuyés par 22 collaborateurs.
Un commentaire de Mano, peut-être?
Oui, je rebondis. Idir parlait des valeurs. Je crois que c'est important, Idir, hein, de parler des valeurs du réseau entreprendre. Hein, je parle sous votre couvert. Donc, il y a trois valeurs, voire quatre valeurs qui sont très importantes chez le réseau entreprendre. La première des valeurs, c'est l'intuitu personnel. L'important, c'est la personne. Et ça, c'est fondamental. Deuxième valeur, la réciprocité. Mais je laisserai le président en parler tout à l'heure. Ce que vous avez donné aujourd'hui, on vous demande de le redonner demain. Et puis la troisième valeur qui est importante, c'est que vous allez être accompagné gratuitement. La troisième valeur, c'est la gratuité. Et ce sont des valeurs qui sont importantes, qui sont portées par cette association.
Vous avez été dans Réseau Entreprendre.
Voilà, je fais un peu la promotion, mais Idir en parlera mieux que moi. Je crois que je me demande s'il n'y a pas une quatrième valeur qui existe depuis quelques années maintenant, non ?
On rajoute effectivement quelques valeurs, puisqu'aujourd'hui, l'impact de nos entreprises est importante. Donc, on est aussi engagé dans certaines valeurs qu'on développera effectivement ultérieurement. Voilà pour les chiffres, mais j'insiste sur ce nombre de bénévoles, et je dirais même plus que ça. Nos membres adhérents payent une cotisation, et en contrepartie de cette cotisation, ils donnent des heures de bénévolat, ce qui est juste exceptionnel, qui n'existe nulle part ailleurs. Un petit chiffre tout de même, hein, Réseau Entreprendre, c'est également 126 implantations, on en parlait, en France et dans 10 pays, et sur l'ensemble, nous sommes 15 000 membres. Donc vous pouvez, puisque j'imagine que IDFM 98 est écouté partout, donc vous pouvez aussi venir...
Grâce au DAB+, absolument, mais voilà. Ne vous moquez pas, c'est
pas,
très sérieux.
J'imaginais.
On va au-delà des frontières du Val d'Oise, il ne faut pas hésiter à en profiter.
Donc n'hésitez pas à venir taper à la porte des réseaux entreprendre partout en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, au Chili, en Suisse, en Belgique,
au Maroc,
au Sénégal, en Tunisie, voilà pour les 10 implantations. Et venez rejoindre la communauté des 15 000 membres engagés.
Et puis, si je peux me permettre, il faut compléter et rajouter que IDIR représente le réseau entreprendre de façon purement bénévole, quoi. Donc ça, c'est juste incroyable. Vous écoutez la passion avec laquelle il parle, et il le fait de façon bénévole, donc c'est incroyable.
Alors Mano, merci de m'avoir lancé tout à l'heure sur les fondamentaux du réseau entreprendre. On en parlait, la gratuité. Quand vous faites toc-toc chez Réseau Entreprendre et qu'on vous confère ce chèque, ce prêt d'honneur, c'est gratuit. Tout l'accompagnement, toutes les réunions mensuelles, le parrainage par un père, un dirigeant, un chef d'entreprise, un homme comme Jacques ici, président d'un groupe comme Sarah Lee Coffee, venait donner de son temps bénévolement. Et donc ça, c'est important, cette gratuité. On parlait également de la personne, toujours. La personne au sens large. Nous, on prête de l'argent à des projets que certains banquiers auraient pu refuser sur le business plan, parce qu'on croit en la personne. Même si le business plan a quelques imperfections, on sait que si la personne a envie et vaut le coup, on sait qu'elle va réussir grâce, bien évidemment, à plusieurs paramètres. Et enfin, on parlait de la réciprocité. Merci, Mano. Je suis là aussi, peut-être, par réciprocité. En 2012, lorsque j'ai frappé à la porte, j'ai eu besoin, effectivement, de ce prêt d'honneur. J'ai eu besoin et envie de cet accompagnement. Aujourd'hui, je le rends effectivement bénévolement, comme beaucoup de nos membres. Mais attention, nos membres ne sont pas que d'anciens lauréats. Jacques, tu en es la preuve. Voilà pour les valeurs.
Je pense que c'est combien, oui, les anciens lauréats ? C'est une trentaine de pourcents ?
Exactement.
Oui, ça. Non, mais je reviens sur ton point et dire, très important, de l'engagement des membres. Des membres... qui sont actifs, hein. Alors moi je le suis en accompagnant, je le suis dans le comité d'engagement, et surtout je voudrais insister sur l'idée que dans ce comité d'engagement qui sélectionne les lauréats dans tous les réseaux de France, le premier message...
Oui, qui valide les projets. Hein.
Oui, qui valide les projets. Le premier message que moi je passe en tant que président de ce comité aux membres, c'est de dire... On va regarder un projet, pas du tout comme un banquier, parce que sinon il serait pas là, mais on va regarder à la fois le projet et la personne. Et je vous demande à tous de bien comprendre l'enjeu que ça représente de s'engager sur un projet comme celui-là, pour le porteur de projet qui est là aujourd'hui, qui va nous en parler, et prenez le temps de questionner sur lui-même, sur son engagement, plus que sur le business plan. C'est, je crois, très important, et c'est probablement une des clés de réussite. C'est qu'en fait, on réussit si la personne est engagée véritablement. Voilà. Et donc ça, c'est une valeur très forte qui est extrêmement positive, y compris pour les membres. Je veux dire, de pouvoir faire ce travail-là
La personnalité du lauréat compte autant
absolument
que le projet, voire plus.
Sa capacité à penser le futur, à regarder les équipes avec lesquelles il va fonctionner. Enfin voilà, toute cette dimension humaine qui fait la réussite. Beaucoup plus que le business plan.
C'est important quand même.
Ça l'est, oui, ça l'est. Ça ne veut pas dire qu'on ne le regarde pas.
Il faut le regarder.
On le regarde, bien sûr qu'on le regarde.
Un commentaire, Manon ?
Oui, et c'est d'autant plus important, et là je parle sous votre couvert, messieurs, que le prêt de Réseau Entreprendre, c'est un prêt à la personne, ce n'est pas un prêt à l'entreprise.
Absolument.
D'où l'importance de l'Institut Personae.
Alors comment ça marche, justement ? Vous contactez Réseau Entreprendre et vous avez un chargé d'études qui va filtrer, trier votre dossier. Pour l'exemple de la région Île-de-France, en 2021, 3600 demandes entrantes ont été traités, seulement 1000 rentrés dans notre cible, car comme exprimé précédemment, nous avons un couloir de nage. Notre couloir de nage, ce sont les entreprises à fort potentiel de création d'emplois. Vous avez des entreprises qui créent moins d'emplois et effectivement, on peut les rediriger vers d'autres mouvements, d'autres associations qui les accompagnent. Sur ces 1000 qui sont dans notre cible, 500 sont administrés, c'est-à-dire sont traités en interne parce que certains n'aboutissent pas, certains réfléchissent encore et ne répondent pas encore une fois à tous les critères. Ensuite, comme je vous le disais, 300 en 2021 sont devenus lauréats. Sur ces 300, on parle toujours de chiffres, 250 étaient vraiment des projets de création. On n'en parle pas suffisamment, mais la reprise en France, la reprise d'entreprise, c'est un vrai sujet. Et donc là, en l'occurrence, on en a eu 25 en 2021. Et je fais un appel, Réseau Entreprendre est un réseau qui accompagne. On nous assimile souvent à la création d'entreprise, mais nous, pour prendre l'exemple du 93, on a même un club spécialisé reprise. Donc n'hésitez pas, si vous reprenez une entreprise, à venir nous voir.
Ou des entreprises en fort développement aussi. Il y a des programmes qui sont prévus au sein de Réseau Entreprendre.
Alors j'allais en parler, c'est que nous avons eu sur ces 300 plus de 10% qui étaient en booster et en ambition. Hein, c'est des termes techniques chez nous, mais justement, comme vous le dites, Paul, des projets à forte croissance, que nous accompagnons dans leur croissance. 56 sur les 300 étaient des projets d'innovation. C'est important, nous accompagnons l'innovation. 71 sont des projets à impact. Donc l'impact, on ne va pas redéfinir hein, au sens large du terme, mais nous sommes sensibles. Alors un point aussi sensible pour moi, même si je considère qu'aujourd'hui la parité c'est une notion un peu difficile, un peu délicate, nous la porte est ouverte à toutes et tous. Il faut le dire, 72 sur 300 personnes que nous avons accompagnées en Île-de-France, c'était des femmes. Bon, certains départements réagissent différemment. Sur le 93, on est très fiers de dire qu'en 2022, on a dépassé les 50%, mais sans aucune discrimination positive ou négative. Très naturellement, ça s'est fait. Donc c'est tout de même important de parler aussi de l'équilibre entre hommes et femmes créatrices ou repreneurs d'entreprises. Voilà quelques chiffres sur notre cible. Une fois qu'on est rentré, on passe par un parcours de validation. 4 à 5 chefs d'entreprise qui vous reçoivent individuellement et qui donnent un OK, un go ou no go sur le projet. Une fois que vous avez eu ces 3, 4 ou 5 go, vous passez devant un comité de 8-10 personnes qui, attention, doivent voter à l'unanimité. Si l'unanimité est acquise, vous devenez donc lauréate ou lauréat du Réseau Entreprendre. On vous verse votre prêt d'honneur avec bien évidemment quelques petites conditions et on vous confère, avec votre accord, un ou une accompagnatrice bénévole pendant 2 ans. Voilà le parcours Réseau Entreprendre.
Alors, on va marquer une nouvelle pause et après, on réattaquera sur vos besoins. À tout de suite.
I held a magnifying glass up to our love. Burned a hole right through it. And in the light of day, I see the end of us. Yes, I always knew it. But if the sun don't shine, I can trick my heart. You can still be mine if we stay in the dark. So shut the door. Wrapped in our lies, clinging to each
together. But eventually the truth will come for us, like a knife-edged feather. If we could see the signs, we would break apart. But we still have time if we stay in the dark. So shut the door.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, merci d'être avec nous. Nous sommes toujours avec nos trois invités. Alors, je dois faire mes plus plates excuses à tous mes invités, ou presque, puisque j'ai écorché les noms. Donc, nous sommes toujours avec Mano Madi. Donc, Mano Madi, donc je le redis deux fois, donc de la Sodésie, avec Jacques Deray. Alors, coup de chance, je n'ai pas écorché son nom. Non, et avec Idir Amizi. Donc là aussi, je lui présente mes plus plates excuses. Et donc, Idir, je préfère vous appeler Idir, c'est plus simple.
Oui, c'est parfait.
Donc, on réattaque sur vos besoins.
Alors, notre association a une belle croissance. Cela dit, ce serait orgueilleux que de ne pas proposer nos services. Nous avons la capacité d'accompagner encore plus de projets. Donc, nous recherchons des porteuses et des porteurs de projets en création ou en reprise. Je tiens à le préciser, nous ne sommes pas une association élitiste de toute taille, de tout secteur. Nous accompagnons des jeunes pousses qui créent leur épicerie solidaire avec deux collaborateurs jusqu'à l'industriel qui va créer une industrie très importante. Donc on est à votre disposition pour vous offrir des prêts d'honneur et un accompagnement. Ça, c'est la première recherche. La deuxième recherche, on n'a jamais assez de membres, des membres engagés pour agrandir notre communauté de bénévoles. L'engagement, j'ai l'habitude de dire que l'engagement chez nous, il est à la carte. Que vous ayez une heure ou six heures à nous consacrer par trimestre, vous pouvez devenir membre. Donc rejoignez nos différentes associations, Île-de-France, mais bien évidemment partout ailleurs en France, pour accompagner. Je continue également sur les institutions, les fondations, les entreprises, les banques privées qui peuvent également venir nous rejoindre pour appuyer notre fonds de prêt. Il est bien évidemment doté aujourd'hui principalement par la région, par la Banque publique d'investissement et par des banques privées. Mais on n'est jamais assez riche pour créer des emplois en France. Donc venez nous rejoindre, n'hésitez pas.
Alors dans le cadre de ces partenariats, quel type de partenariats peuvent être mis en place? Peut-être Jacques Deray?
Oui, je voudrais simplement compléter ce que dit Idir. Pour faire tout ce qu'il a proposé, il faut des membres. Donc on a aussi besoin de membres actifs, bénévoles, dans les entreprises du 93, si on parle du 93, mais de toute l'Île-de-France. Et Dieu sait s'il y a des entreprises, des grandes, des petites. Donc voilà, des chefs d'entreprise qui ont envie de s'investir sur cette tâche du développement, du partenariat. C'est parfaitement le lieu pour rejoindre l'ensemble du réseau. Donc on a besoin, je crois qu'on a un chiffre d'ailleurs y dire, qui est un nombre d'adhérents nécessaires pour un lauréat.
Le chiffre 7.
Voilà, le chiffre 7 est magique.
Un chiffre magique.
Voilà, il nous faut au moins 7 membres pour
effectivement tout le parcours d'accompagnement,
préalable et d'intégration d'un lauréat, il faut des membres. Voilà.
Donc, lauréat, 7 membres. Voilà. C'est à peu près le ratio.
À peu près, ça, c'est très bien, parce que ça permet d'accompagner et de bien servir, mission.
Au-delà de nos membres dont tu parles, Jacques, moi, je voulais attirer l'attention aussi sur nos salariés, parce que, à l'échelle de l'Île-de-France, nous avons un peu plus de 20 collaborateurs, et tous nos collaborateurs sont dévoués. Ils sont certes pas bénévoles, mais ils sont tous dévoués. Et un collaborateur, puisque ce chiffre 7 sert dans tous les sens du terme, un collaborateur peut participer à créer 7 créateurs ou repreneurs dirigeants d'entreprise. Donc c'est aussi important d'avoir des ratios, d'avoir les moyens d'avoir des effectifs suffisants, d'avoir les moyens d'avoir des membres pour accompagner l'emploi en France.
Voilà, et pour répondre à ta question, Paul, oui, c'est vrai qu'on a besoin de partenaires. On a besoin de partenaires, on a besoin de mécènes qui ont envie de soutenir Réseau Entreprendre.
Alors le mécénat, expliquer ce que c'est.
On peut être partenaire, par exemple, et aider à la soirée des lauréats en étant une entreprise de la région du 93 et ou du 78 ou du 77. Et
Sans être membre.
Comment ?
Je dis sans forcément être membre.
Sans forcément être membre,
et en disant
mais en avoir envie de soutenir un événement du réseau Entreprendre. Voilà, donc ça, on peut être partenaire.
Et là, on revient sur la notion de valeur dont Mano parlait. C'est des gens qui partagent les mêmes valeurs.
Les valeurs qu'on porte, l'envie de soutenir la création d'emplois, l'envie de soutenir la reprise d'entreprise. Donc toutes sortes de bonnes raisons permettent de le faire. On a aujourd'hui un certain nombre, merci... y dire, au moins pour notre beau réseau 93, on a la Française des Jeux, on a MMA, on a Hermès, on a Paprec. Voilà, on a des belles entreprises qui s'engagent à nos côtés pour être des partenaires. Alors moi, j'ai plutôt l'idée, évidemment, ça c'est important, mais plus long terme, c'est très important qu'on ait des soutiens de mécénat. Je porte ce projet dans le cadre du 93, mais aussi de l'Île-de-France, parce que je pense que sur le long terme, on a besoin d'être accompagné par d'autres entreprises qui ont envie de s'associer aux valeurs. Ça peut être tout simplement s'associer aux valeurs et donc apporter une contribution financière qui, fiscalement, pour les entreprises, est intéressante, et d'être aux côtés de... Réseau Entreprendre 93 ou Réseau Entreprendre Île-de-France, en se disant intéressé par des sujets. Est-ce que, par exemple, le sujet de la reprise d'entreprise ou le sujet du travail...
De la promotion de la femme, oui.
Voilà, promotion entre le travail au féminin ou des sujets sur l'impact. Voilà, on peut devenir mécène du Réseau Entreprendre. Et on peut aussi avoir une démarche plus spécifique. Je rejoins la question que j'avais évoquée, le point que j'avais évoqué tout à l'heure de grandes entreprises qui peuvent s'investir auprès du réseau en y apportant des salariés qui peuvent mettre en place des compétences. Donc on parle là cette fois du mécénat de compétences. Et aujourd'hui, les entreprises peuvent dédier et bénéficier aussi davantage, mais ça c'est la contrepartie, mais surtout dédier du personnel compétent pour une association comme Réseau Entreprendre.
En règle générale, ce sont des seniors.
Oui, enfin ça peut être des seniors, mais ça peut être aussi des gens qui ont envie, qui sont motivés par l'idée de contribuer dans des associations. Et on a une forme associative tout à fait intéressante, où on peut avoir de l'aide de compétences. Donc voilà, des formes de mécénat, il y en a beaucoup. Et moi, je vais évoquer avec vous, et je le lance un peu comme une idée pour l'Île-de-France et pour d'éventuelles entreprises, c'est le mécénat de projet. Parce que, évidemment, dans toutes nos entreprises lauréates, il y a en permanence des projets. Et on pourrait très très bien imaginer de soutenir des projets de façon très directe par le mécénat. C'est-à-dire d'avoir un espèce de comité d'entreprise de mécènes qui vont sélectionner des projets. des projets d'entreprises déjà membres de Réseau Entreprendre, lauréates de Réseau Entreprendre, et qui vont se développer, parce qu'il faut qu'elles se développent dans les 3 à 5 ans qui viennent. Elles ont des projets. Et on pourrait fort bien avoir...
Mais donc, il faudrait déterminer des thèmes, voilà, type le développement durable.
Voilà, alors on prend, durable, je sais pas, les huit entreprises du Réseau Entreprendre de l'Île-de-France. Et évidemment, on questionne les lauréates, les entreprises lauréates de cette région. Et on identifie une dizaine de projets. Et on les met dans un comité de mécènes qui vont décider de les soutenir et de les financer. Voilà, donc on a quelque chose de très concret.
L'innovation,
la formation, le développement du personnel, toutes sortes de projets.
Il faut trouver les thèmes. Il faut définir les thèmes.
Je pense qu'on les a, puisqu'on a les entreprises. Il nous faut les mécènes pour financer. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai expérimenté dans mon autre vie que celle de l'entreprise, celle de l'art. Parce que vous avez vu que je m'intéresse à l'art. Et il se trouve que j'ai développé un programme de mécénat de soutien d'aide à la production pour les artistes.
Donc c'est le Réseau Entreprendre de l'art.
Ben, on pourrait presque dire ça. On pourrait presque
décidément,
dire ça.
Hein,
quand on est passé chez Réseau Entreprendre comme Mano.
Ouais, voilà, voilà. On peut continuer.
On appelle
inventer
ça de l'essaimage.
Et donc, en fait, si je prends les artistes c'est aussi des entrepreneurs, hein, de leur créativité. Il va falloir qu'ils fassent deux choses. Il faut qu'ils soient visibles et il faut qu'ils soient promus. Donc j'ai développé un programme de mécénat qui s'appelle Art Collector et qui soutient les artistes français. Donc ça, c'est un choix que j'ai fait de soutenir la scène française de l'art. Et ça, c'est un programme qui a maintenant une dizaine d'années. Et il y a quelques années, en accompagnant une entreprise du Réseau Entreprendre 93,
qui
repreneur d'entreprise, quelqu'un qui avait vendu sa collection d'art pour racheter cette entreprise. Donc je l'ai accompagné pendant 2 ans, et donc on s'est côtoyé pendant 2 ans.
On peut faire du name dropping?
Oui.
Qui était cette société?
C'est l'entreprise Cornu. Entreprise Cornu, 1887, dans le 93, son dirigeant est Benoît Béguin, qui est devenu un ami et qui voyait ce que je faisais en matière de mécénat et qui m'a dit à un moment, mais moi j'aimerais bien, je suis un amateur d'art comme toi, qu'est-ce que je pourrais faire? Et on a inventé un deuxième programme de mécénat qui est d'aide à la production. Et donc cette fois, avec
c'est
lui...
C'est sur des projets.
Voilà, c'est exactement la même chose, sur des projets... l'entreprise Cornu finance 8000 euros d'aide à la production d'œuvres. Mmh. Voilà. Et donc, ce programme fonctionne très bien. On en est à notre 4e ou 5e opération d'aide à la production avec l'entreprise Cornu. Et je me suis dit, mais voilà, cette idée, c'est pas moi qui l'ai inventée, on l'a inventée ensemble. Et le mécénat de projet dont je parle, c'est à peu près la même idée. C'est-à-dire que cette fois, ce ne seraient pas des artistes, mais ce seraient des entrepreneurs qui auraient des projets qu'on pourrait financer par du mécénat d'entreprise. Voilà. Donc, on peut continuer sur ce sujet-là, mais moi, je pense que ça nous aiderait. On a besoin et de partenaires et de mécènes. Dans toutes les associations, il y a des associations où ça fonctionne déjà très bien.
Et donc, ça contribue aussi à la visibilité de Réseau Entreprendre.
Absolument, absolument, parce que prenons l'exemple de, je sais pas, des quelques entreprises qu'on a évoquées tout à l'heure. Si demain Hermès est sélectionné ou sélectionne parmi les 10 projets un projet à soutenir, eh ben ça va servir, bien évidemment. On va tout faire pour que. Évidemment, Réseau Entreprendre et l'entreprise lauréate en profitent, mais aussi Hermès, qui devient soutien d'un projet du Réseau Entreprendre 93 ou Île-de-France. Voilà.
Un commentaire là-dessus, Idir, et peut-être de manière plus large, les animations ou les projets en termes de communication de Réseau Entreprendre.
Alors, pour rebondir là-dessus, parce que en tant que président, je suis très opérationnel. Nous avons créé un nouveau projet avec Hermès Service Group, qui est devenu parrain d'une promotion. Donc là, pas d'une entreprise, mais d'une promotion complète. Et nous sommes actuellement en discussion avec le groupe Paprec. Je parle du territoire du 93, de la Seine-Saint-Denis, dans le recyclage, entre autres, pour leur demander justement justement eux d'être parrains des entreprises à impact, par exemple, puisque c'est un vrai sujet. Voilà pour rebondir sur ce que disait Jacques. Oui. Pour les actualités, il y a quelques mois, une grande nouvelle, un changement de gouvernance à l'Île-de-France en février, avec la nomination d'Armelle Weissmann en qualité de présidente, mais également tout un collectif des 8 présidentes et présidents de département qui mènent depuis le mois de février des actions incroyables sur l'Île-de-France. Récemment, le 25 mars, l'AFEB, vous connaissez peut-être ce mouvement, c'est l'équivalent du CAC 40, mais pour 120 entreprises, vont recevoir nos lauréats pour réfléchir à les appuyer, investir, voilà. Et puis, à venir, au mois de mai et au mois de juin, vous allez avoir sur chaque département de l'Île-de-France un gros événement. Un gros événement qu'on appelle souvent la soirée des lauréats, où on fait la promotion des créatrices et des créateurs d'entreprises de l'année. Allez rencontrer les réseaux entreprendre dans chaque département. Soirée des lauréats, vous allez sur réseauentreprendre.com.org sur Internet. Et enfin, le 14 et 15 octobre, nous organisons la Biennale à Saint-Étienne, et là c'est un événement national et international. En fonction des années, nous avons été entre 1000 et 1500 dirigeantes et dirigeants d'entreprise. Tout est organisé, tout est pris en charge pendant 2 jours pour passer un moment magnifique de convivialité, mais également un moment inspirant avec des témoignages de personnalités dans la culture, dans l'entrepreneuriat, dans l'économie. Donc n'hésitez pas à taper réseauentreprendre.org, 14 et 15 octobre, la Biennale. Voilà pour les actualités, les événements à venir.
Le tout récent, hier, était le Booster Camp
qui est passé au mois de février. De France,
qui s'est passé il y a quelques jours.
Voilà. IDFM, la radio de l'économie, je rebondis. On a également un événement à venir. Alors, c'est pas bien de dévoiler, mais on aura certainement la personnalité la plus significative de l'économie en France, personnalité politique. Son prénom commence par un B. Je vous laisse deviner, le 25 mai, sur un territoire qui rassemble la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise, probablement sur le territoire de Paris-Terre d'Envol, probablement à Villepinte, nous recevrons ce ministre avec 600 à 700 chefs d'entreprise. Donc voilà un événement pour le territoire du 95.
Oui, parce qu'on sait bien que Roissy est vraiment notre frontière entre le Val-d'Oise et la Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc, j'allais dire, c'est presque en territoire neutre quand on va à Villepinte. Donc, merci d'y dire. Et peut-être, avant de passer la parole à Jacques, votre meilleur souvenir professionnel ou votre plus grande satisfaction ?
Alors, comme vous avez remarqué que j'étais un jeune homme, je ne m'attache pas aux souvenirs du passé. Cela dit, mon assistante a fait le compte. J'ai dû signer dans ma jeune carrière à peu près 2000 contrats de travail. Et ça, c'est ma satisfaction. C'est d'avoir créé, avec mes équipes, 2000 emplois sur ma carrière professionnelle. Donc, c'est pour certains peu, pour beaucoup, pour d'autres beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. En tout cas, j'en suis très fier. Et puis, plus récemment, pour faire un lien avec l'actualité même internationale, dans le réseau Entreprendre, un de nos lauréats, une jeune pousse qui a créé l'entreprise, a fait un appel à l'aide en disant « J'ai de la famille indirecte qui vient d'Ukraine. Du jour au lendemain, pouvez-vous les accueillir ?» En une semaine, on a lancé notre réseau. Et on a réussi à faire héberger une première famille, puis une deuxième famille, puis une troisième famille. Alors, quand je dis famille, ce sont des femmes seules avec leurs enfants qui viennent d'Ukraine, parce que les hommes sont restés là-bas. Et pour faire un lien avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on a également permis à ces familles d'obtenir un emploi au sein du réseau, et même pour l'une d'entre elles, peut-être de créer une entreprise. Donc voilà le lien avec l'actualité, la guerre en Ukraine, le réseau Entreprendre, c'est aussi un partage de valeurs, une communauté solidaire qui crée des emplois et qui crée des employeurs, même en temps de guerre et en temps difficile.
Merci Idir, on va marquer une dernière pause.
Mon père adore le foot, crée aller les rouges dans sa tête. Il dort nul, réveillons pas ma mère sans aucun doute. Rave d'un boy scout, capitaine à bord du Santa Maria. Je voudrais bien savoir la loi des sentiments. Les cœurs en feu brûlent en hiver. Tourner le monde à l'envers.
J'aimerais bien savoir la loi des sentiments. Le cœur en feu brûle, t'en y va. C'est ça, ni rien comprendre, l'amour est fascinant. Fais tourner le monde à l'envers.
Toujours sur IDFM Radio, sur l'économie en direct. Merci d'être avec nous pour notre dernière ligne droite avec Mano Madi. Donc là, je l'ai bien
parfait, dit. Parfait.
Donc de la Sodésie et de Diez. Idir Amizi, donc je l'ai bien dit aussi, de Réseau Entreprendre. Président de Réseau Entreprendre Seine-Saint-Denis et vice-président de Réseau Entreprendre Île-de-France. Et Jacques Deray, donc avec qui est président de deux sociétés, JD Encom et de JLD Invest. Et donc Jacques, on redémarre avec vous sur. On a commencé déjà un peu à effleurer le sujet de cette structure Art Collector, donc qui est finalement le réseau entreprendre des artistes.
Pourquoi pas? Oui, oui, tout à fait. Bon, voilà, ben quand on a une activité comme je l'ai eue, très prenante dans le monde de l'entreprise et dans le monde entier, puisque mon entreprise était américaine et donc je suis allé beaucoup aux États-Unis, j'ai vraiment vu comment les collectionneurs du monde, en particulier aux États-Unis et en Europe, comment ils s'investissaient pour soutenir leur scène artistique. Et j'ai eu très envie de faire ça, d'utiliser une partie de mon argent, donc c'est vraiment du mécénat privé, de soutien aux artistes. Et donc, j'ai créé avec ma femme un programme qui s'appelle Art Collector. Vous pourrez aller sur le site, vous tapez Art Collector, vous allez trouver tout ce qu'on fait. J'ai parlé tout à l'heure de ce deuxième programme qui s'appelle D'aide à la production. Et on soutient entre... On est maintenant au 18e artiste français sélectionné par un comité et financé... Avec, là, par exemple, je vous ai amené un exemplaire de catalogue que l'on finance, d'exposition que l'on finance pour le compte de ces artistes.
Alors, voilà. Vous parlez de comités. Alors, qui sont dans vos comités?
Dans ce comité,
comment vous les recrutez?
Voilà, comment on les recrute. Donc, on pourrait très bien faire le parallèle avec les mécènes dont je parlais tout à l'heure. Là, en l'occurrence, ça peut être des entreprises, ça peut être des collectionneurs, comme moi, privés ou publics. C'est des, comment on dirait, le monde de l'art, il a aussi ses spécialistes. On a des critiques d'art, on a des agents, pas des galeries, parce que là, on rentrerait trop vite dans le domaine purement commercial. Mais on a toute une filière de ce monde de l'art. On a une dizaine de membres dans ce comité qui changent tous les ans et qui vont amener des projets et des artistes. Des programmes et des artistes, voilà. Et donc, il y a évidemment une discussion, une présentation et une sélection pour avoir un lauréat annuel de Art Collector qui va bénéficier d'une exposition, d'un catalogue et d'un programme de communication, donc qui rejoint leurs besoins de visibilité et de production, puisqu'on a maintenant ce deuxième programme d'aide à la production. Voilà. Donc ça me permet de refaire la transition entre ce projet-là personnel et peut-être le réseau entreprendre de l'art ou de l'entreprise, puisque finalement ce sont souvent aussi des jeunes entrepreneurs ou des jeunes entreprises, pour parler de ce besoin de partenaires ou de mécènes. Merci à notre voisin ami qui est là depuis
donc là, vous parlez de la Sodésie
qui parle formidablement de la Sodésie et qui va devenir...
Et qui parle bien du réseau entreprendre aussi.
Qui parle très bien du réseau entreprendre et qui va être dans le réseau Île-de-France un vrai partenaire
avec plaisir.
Et un vrai mécène de ce que nous faisons dans ce cadre-là. Donc, à nouveau, merci beaucoup de cette démarche.
J'ai été sur le site d'Art Collector.
Oui.
Je reviens un petit peu en arrière.
Ouais.
J'ai vu que les prix étaient très abordables. Alors, est-ce que il y a tout type de prix? Parce que en allant sur le site, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de lithographies, en fait.
Oui, tout à fait.
Et est-ce que ça va au-delà? Est-ce que
Alors nous, on vend pas directement.
Ça reste très accessible.
Comment ça se passe? Puisque en fait, le programme est dédié à ce qu'on appelle des artistes émergents. Alors, on pourrait parler de jeunes entrepreneurs. Ben là, c'est des jeunes artistes.
Donc, il n'y a pas encore de cote ou il y a déjà une cote?
Très peu sont cotés encore. Mais en fait, au bout de quelques années où ils ont été lauréats de Art Collector, évidemment, leur progression existe. Et donc, certains sont aujourd'hui très cotés. Mais bon, il faut comprendre que dans l'art, il y a de la peinture, qui sont des pièces uniques, et il y a de l'édition lithographique, par exemple. Qui sont des pièces multiples, qui sont donc à des prix très abordables pour les amateurs d'art.
Voilà. Mais donc, on est plus dans des opérations coup de cœur, finalement, à ce stade-là.
Oui, absolument. Le choix est plus de promouvoir une qualité de travail, une qualité artistique de travail, qui a besoin d'être plus montrée pour être valorisée, en fait.
Voilà. En termes d'expos, d'événements, vous avez fait, par le passé, des événements sur Enghien aussi?
Alors, on n'a pas fait directement sur Enghien, mais on a des artistes...
Dans le Val d'Oise?
Oui, dans le Val d'Oise. Enghien est très, très réputé. Très réputé pour l'art digital et l'art numérique. Et le dernier artiste qu'on a soutenu, qui s'appelle Thibaut Brunet, a eu des expositions ici à Enghien. Voilà.
Alors,
donc, Enghien est tout à fait un endroit qu'on pourrait promouvoir aussi pour Art Collector. Tout à fait.
Alors, j'ai vu également que vous étiez operating partner de Milestone Investisseur. Mm-hmm. Est-ce que finalement une jeune start-up qui lauréat du réseau Entreprendre, qui monte en puissance et qui veut lever des fonds, devient après dans le cursus potentiellement éligible à des structures comme celle-là?
Absolument. Donc en fait, Milestone est une entreprise qui ne se qualifie pas comme fonds d'investissement, mais comme société d'investissement. Alors, je ne vais pas faire de cours là-dessus, mais en fait, c'est une société qui va lever des fonds dédiés à un projet et pas avoir une structure de fonds qui finance plusieurs projets en même temps. Donc, c'est à chaque fois un projet et un financement. Donc, Milestone est une société d'investissement dans laquelle je travaille aujourd'hui, après avoir fini ma carrière dans les grands groupes et être dans le réseau Entreprendre. Je fais ça aussi. Et donc, c'est le développement d'entreprises et le financement capitalistique d'entreprises jusqu'à leur cession éventuelle ou leur reprise par les dirigeants. Voilà. Donc, je suis dans ce...
Toujours dans de l'accompagnement d'entrepreneurs.
Absolument. Et je crois que je vous ai indiqué, Paul, dans mes petits messages, j'en suis très fier parce que l'entreprise dont je m'occupe actuellement en tant qu'operating partner est une entreprise dont le CEO était l'ancien directeur commercial d'une autre entreprise que j'ai accompagné pendant, en tant qu'operating partner, j'ai accompagné pendant 7 ans. Et j'ai tout fait pour que ce directeur commercial devienne le prochain CEO de l'autre opération qu'on vient de faire. Et donc, il est aujourd'hui... Donc voilà, j'ai continué mon rôle de, de, d'accompagnateur dans un autre monde qui est celui des fonds d'investissement. Voilà.
Parfait. On va arriver au bout de cette émission. Ma dernière question traditionnelle, oui. Votre meilleur souvenir professionnel ou votre plus grande satisfaction ?
Eh bien, écoutez, je vais reprendre ce qu'a dit Idir tout à l'heure. Alors, moi, je ne l'ai pas fait en tant qu'entrepreneur parce que je n'étais pas entrepreneur. J'ai été président d'une grande compagnie et je me suis bagarré pour créer des emplois. Et j'ai réussi à le faire puisque c'est aujourd'hui très connu à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, le groupe dans lequel je travaillais, qui a été le concurrent direct de Nespresso, a créé les capsules L'Or, qui sont maintenant produites à Saint-Étienne. Et j'ai tout fait pour que ce soit fait dans l'usine française. Et là, je crois que j'ai créé plus de 200 ou 300 emplois dans ce site industriel financé par les Américains, qui n'avaient pas du tout envie de mettre leur argent en Europe. Pas en Europe, mais pas en France. Mais bon, je crois que j'ai eu suffisamment de conviction pour que ça soit à Saint-Étienne. Et aujourd'hui, les capsules L'Or sont fabriquées à Saint-Étienne.
Voilà. Donc je vous réinviterai pour parler de la réindustrialisation de la France.
Absolument.
qui est un vaste débat.
Mais c'est vrai que créer des emplois, créer du business, c'est une grande satisfaction.
Ça sera la conclusion et je vous la laisse, Jacques.
Merci beaucoup.
Donc merci à tous les trois d'avoir partagé votre actualité. Puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Merci à Francky pour la technique. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la recommander, à la faire écouter en podcast sur toujours idfm98.fr. Moi, je vous retrouve lundi dans 15 jours. Et entre-temps, vous pouvez écouter Jacqueline Voraz les mardis et vendredis sur IDFM 98. Une très belle journée à tous. Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. Et merci à vous.
Merci.
Partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Car je te connais, ouais. J'suis avec elle dans ma bulle, si t'es pas là, désolé. On accumule les problèmes, ça fait que de s'additionner. Au début c'était trop bien, au début c'était marrant. Avec le temps j'ai compris, au final que notre histoire est dangereuse. Trop d'histoires, c'est dangereux. Tu m'as donné, donné, tu m'as donné, donné, tu m'as donné, donné, donné. Tu m'as sonné, sonné, tu m'as sonné, sonné, tu m'as sonné, sonné, sonné. Notre histoire est dangereuse. Trop d'histoires, c'est dangereux. Tu m'as donné, donné, tu m'as donné, donné, tu m'as donné, donné, donné. Tu m'as sonné, sonné, tu m'as sonné, sonné, tu m'as sonné, sonné, sonné.
J'pense à toi, j'ai des frissons. Tu m'attends jusqu'au coucher. Et parfois j'fais des cauchemars quand j'l'imagine te toucher. J'imagine te toucher, l'avenir je le vois pas sans toi. J'ai des projets avec toi, si j'ai merdé, excuse-moi. J'vais m'éloigner, pépé. Trop de problèmes, pépé.
c'était trop bien. Au début c'était marrant. Avec le temps j'ai compris au final que notre histoire est dangereuse. Trop d'histoires c'est dangereux. Tu m'as donné, donné, tu m'as donné, donné, tu m'as donné, donné, donné. Tu m'as sonné, sonné, tu m'as sonné, sonné, tu m'as sonné, sonné, sonné. Notre histoire est dangereuse. Trop d'histoires c'est dangereux. Tu m'as donné, donné, tu m'as donné, donné, tu m'as donné, donné, donné. Tu m'as sonné, sonné, tu m'as sonné, sonné, tu m'as sonné, sonné, sonné.